Bonsoir, bienvenue à la Manufacture Chanson pour cette je ne sais pas combien rencontre professionnelle. Nous en sommes à l'épisode 6 de la saison 2 avec Twitch et tout, mais ça fait des années qu'on fait ça. Donc nous accueillons ce soir Adriana Rosseo. Bonsoir. Donc, manageuse d'artistes, programmatrice, co-directrice artistique, etc. Enfin, on va parler de tout ça tranquillement. Ces rencontres, elles sont organisées en partenariat avec le CNM. Et puis, bonjour à Tristan, qui va s'occuper, comme d'habitude, des questions Twitch et surtout aussi... À la fin, est-ce que tu as bien prévu d'annoncer la prochaine rencontre professionnelle ?
Tout à fait, Stéphane. J'ai bien prévu d'annoncer la prochaine rencontre. Et j'attends les questions sur Twitch.
Désolé, c'était une petite private joke. Donc, on commence toujours par le parcours. Adriana, comment est-ce que toute petite tu rêvais d'être manageuse, programmatrice? Comment ça s'est passé, ça, la petite Adriana qui était au Venezuela en plus, qu'est-ce qu'elle avait en tête par rapport à ce monde de la musique que l'on connaît aujourd'hui?
Déjà merci beaucoup pour cette invitation, je suis très contente d'être là ce soir. C'est la première fois que je vais parler comme ça publiquement de mon parcours professionnel. D'habitude, je donne la parole aux gens pour parler et je me retrouve pas souvent dans celui-là, mais bon, bref. La petite Adriana, elle rêvait d'être chanteuse, comme plein de petites filles. Je ne l'ai jamais fait, si ce n'est de manière amatrice. Donc je l'ai fait au Venezuela, je l'ai fait un peu en France. Mais je suis arrivée à la musique par des connaissances, une passion avant tout. Donc toujours passionnée de la musique. Dans ma famille, il y avait des musiciens professionnels et amateurs.
D'accord.
Donc la musique a toujours fait partie de ma vie, de mes passions. Et c'est donc en France, il y a quelques années, avec beaucoup d'amis qui étaient musiciens, musiciennes, qui n'étaient pas entourés et qui m'ont proposé de leur filer un coup de main pour trouver des dates pour leur projet. Et donc j'ai commencé un peu comme ça, sans réseau, sans connaître absolument rien du milieu, en ayant une idée un peu peut-être, un peu naïve.
Un peu préconçue du
surtout naïve de là où je mettais les pieds.
D'accord.
Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à me former. Donc, j'ai suivi des formations, donc anciennement de l'IRMA, aujourd'hui le CNM, qui m'a permis de comprendre...
Parce que ton cursus scolaire n'avait rien à voir, était complètement ailleurs, dans d'autres... Tu me disais tout à l'heure, dans de la diplomatie ou des choses...
Moi, j'ai un parcours pas dans la musique, j'ai travaillé dans le milieu politique pendant quelques années, et effectivement dans la diplomatie, mais c'est vrai que j'étais aussi en lien avec donc les affaires culturelles et donc la diplomatie un peu culturelle aussi. Et donc, quelque part, les compétences que que j'ai pu acquérir en fait dans ce milieu m'ont servi. Je les ai amenés avec moi dans la musique et clairement ce que je fais aujourd'hui a un côté aussi très politique.
D'accord.
Il y a beaucoup de diplomatie aussi dans les choses que je fais au quotidien dans mon travail.
On va en parler, t'es très engagée, j'ai l'impression.
Un peu, oui.
Ok.
Donc c'est pas un parcours classique de personnes qui ont suivi des formations de gestion culturelle, de management, etc. Mais j'ai eu la chance et l'opportunité de croiser des personnes sur mon chemin qui m'ont... Beaucoup de femmes,
D'accord.
Il faut que je le dise. Qui m'ont aidé à comprendre aussi le fonctionnement de la filière et de l'industrie musicale, donc le côté aussi business. Et sur ce chemin, j'ai aussi croisé un homme, qui est Stéphane Amiel, qui est le directeur et créateur fondateur du festival Les Femmes S'en Mêlent, avec qui je travaille aujourd'hui, et qui a voulu m'intégrer dans l'aventure avec une idée assez politique et engagée autour des questions d'égalité des genres et d'inclusion dans la musique. Et voilà.
Ok.
C'est résumé.
Tu dis qu'à un moment donné, tu avais des proches qui avaient un besoin d'être accompagnés pour développer des projets, c'est ça ?
Tout à fait.
Et c'est ce qui t'a mis un petit peu l'envie, le pied à l'étrier pour démarrer des choses. Et tu as fait des formations, c'est ça,
oui.
À ce moment-là. Alors comment ça s'est passé, ça ?
Très bien. En plus, dans ces formations-là, j'ai rencontré des gens qui, aujourd'hui, sont des collègues et
d'accord.
même des amis dans le milieu. Parce que parfois, voilà, notre vie privée et notre vie professionnelle est très imbriquée. J'ai rencontré dans ces formations des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui je collabore. Et donc, j'ai fait une première formation qui s'appelait, si je me rappelle bien, formation entrepreneur du spectacle.
D'accord.
J'ai fait une formation aussi sur le management. Okay. Et je voulais faire une formation sur les éditions également, que je n'ai pas pu faire.
Et ça, c'était avec l'IRMA.
Et ensuite avec le
d'accord.
CNM. Ouais. Mais la formation édition est très prise, donc il faut se prendre vachement à l'avance, se jeter sur, l'offre. Ensuite, après, j'ai commencé à travailler pour le festival. Du coup, j'étais un peu dans une autre dynamique, mais voilà.
Ok. Alors, donc il y a la partie festival, donc ça, et puis il y a la partie management aussi. Peut-être on va en parler après du management. Alors le festival, les femmes s'en mêlent, c'est quand même un festival, un grand festival avec une belle notoriété. Alors qu'est-ce que tu peux en dire ? Comment ça se passe ? Depuis quelle année tu...
Alors moi, ça fait 3 ans que je travaille pour le festival,
d'accord.
mais il existe depuis 1997.
D'accord.
Donc c'est un tout jeune festival
ouais.
qui commence.
Ouais. Ouais.
et donc c'est un festival qui promeut en fait les artistes femmes de la scène indépendante. Et ça, depuis 1997, ça a toujours été le cœur du festival.
Ouais.
Oui. Un festival qui est un peu hybride parce que très vite, donc il est né à Paris, mais très vite il est devenu un festival itinérant avec plein de villes en fait qui souhaitaient aussi accueillir des plateaux uniquement composés par des artistes femmes ou des projets portés par des femmes. Et qui a permis aussi de créer des espaces de partage avec des artistes internationales et françaises, locales. Ça a été la première scène de plein d'artistes qui sont aujourd'hui assez connus. Christine and the Queens, Jana Deda a aussi joué aux Femmes sans mêle. Il y en a tellement, Cat Power, Emma Hay, enfin voilà, il y a des grands nombres d'artistes aujourd'hui très reconnus qui sont passés par là. Et le festival, c'est un peu, je ne vais pas dire politisé, mais quelque part a pu aussi accompagner l'évolution de la prise de conscience de la filière de la musique autour de la sous-représentation des femmes sur scène. Et ensuite a adapté aussi sa proposition, son offre artistique, en tenant compte de ces problématiques-là. Et donc, depuis 3 ans, on a développé en fait un dispositif qui s'appelle Les Femmes s'engagent,
ouais.
Qui vient accompagner en fait la programmation artistique et qui propose en fait plein d'actions d'ateliers, masterclass, conférences, rencontres, projections, surtout pour essayer de répondre à cette sous-représentation qui n'est pas uniquement sur scène, elle est en coulisses, elle est au poste de direction, elle est dans les métiers techniques.
Les créateurs, les compositrices, par exemple.
Voilà,
pas
ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, on essaye d'apporter une humble petite contribution à cet édifice, en mettant aussi à la table plein de collectifs et d'assos qui le font déjà, parce que bon, tout seul, on ne peut pas tout faire.
Mmh.
Et donc, en fait, on s'entoure aussi des personnes qui sont engagés sur ces choses-là, que ce soit sur l'écriture, la création, la composition, la production musicale, la lutte contre les violences, le harcèlement sexiste et sexuel, la santé mentale, la maternité, durabilité de carrière, et puis aussi des questions d'inclusion, c'est-à-dire comment aussi permettre que cette filière soit à l'image de la diversité qu'il y a en France, la diversité créative musicale et ce que les personnes incarnent. J'ai beaucoup parlé.
Ouais, non mais c'est parfait. Et alors, comment ça se passe ce festival ? Parce qu'en plus, tu dis ça s'est développé de manière en itinérant, mais même à l'international aujourd'hui. Donc concrètement, c'est à quel moment, comment ça se passe, c'est quel type de scène, quel type de...
Alors, il faut savoir qu'il y a un temps fort sur Paris en novembre. Avant, le festival il était positionné plutôt fin mars, avril. Et depuis 3 ans, on est sur novembre. Et donc, il y a le moment, l'événement à Paris. Et ensuite, il y a la tournée des Femmes sans mêle à la même période. Donc, l'année dernière, par exemple, on avait une vingtaine de villes qui avaient des plateaux qui pouvaient aussi bouger. Pas à l'identique, mais les artistes pouvaient...
Et ce sont des plateaux avec plusieurs artistes
ou... Oui, voilà. C'est des co-plateaux.
Et du coup, les artistes partent en tournée à plusieurs...
Voilà, ça dépend aussi de... Ouais. Voilà, parce que souvent, les salles qui nous accueillent lors de la tournée ont aussi des artistes locales qui sont accompagnés en fait tout au long de l'année et que c'est le moment en fait de les mettre en lumière à ce moment-là. Donc il y a la tournée... Le temps fort parisien, avec aussi une ouverture francilienne aussi, donc en Ile-de-France sur d'autres salles. Et le reste de l'année, on peut aussi avoir d'autres moments. Par exemple, là en avril, on aura l'édition à Marseille, donc une édition des Femmes sans mêle à Marseille. Et l'année dernière, on avait une édition aussi à Grenoble, sur Amois, avec une programmation pareille, artistique et avec les Femmes s'engagent également. D'accord. Et cette année, c'est notre 25e anniversaire.
Ah bon.
Et du coup, donc, on prévoit aussi de déployer le dispositif des Femmes s'engagent tout au long de l'année. Car l'idée, c'est de pouvoir pérenniser les actions et en faire profiter un grand nombre.
Ok. Et alors, toi, ton rôle, déjà, comment ça s'appelle ton métier, ton travail?
Mon métier. Slasheuse. Non. Alors, ça dépend. En fait, on est une petite équipe aux Femmes sans mêle. On est 2 personnes avec donc Stéphane, le directeur, et donc moi, je suis à la coprogrammation avec lui. Et je m'occupe aussi à 100% sur ce dispositif des Femmes s'engagent. On se complémente et puis on est une petite équipe, par exemple,
le rôle de chacun par rapport à la programmation, est-ce que vous avez certains créneaux chacun ou certains styles comment ça
alors,
se passe
pour il y a des esthétiques musicales pour des questions personnelles qu'on connaît ou qu'on écoute plus. Après on est aussi un festival qui est très éclectique et qui n'a pas vraiment un style musical défini. On programme autant de la pop que l'électro, que du rap, que de la folk. Peut-être qu'on ne fait pas énormément de plateaux de musique expérimentale, mais voilà, en disant que c'est assez large. Et donc là-dessus, Stéphane, il est là depuis le début, c'est le fondateur, donc il a aussi... il connaît énormément de groupes. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est souvent sollicité pour... faire partie des jurys, des tremplins de découverte.
D'accord. Ça vous permet du repérage.
De repérer, Donc on est on découvre... Il y a un vivier énorme, en fait, d'artistes femmes en France et de personnes minorisées qui attendent juste à être accompagnées, à trouver une scène, à pouvoir être sur scène, quoi. Donc voilà.
Et vous choisissez chacun... des artistes ou il y a une partie un peu collégiale, c'est-à-dire faut que les deux soient d'accord
Non, pas forcément. Après, c'est aussi... déjà, on reçoit beaucoup de propositions, disons, spontanées des artistes, qui soient entourés ou pas, qui nous proposent leurs projets, on les écoute. Parfois, il y en a un qui a le temps d'écouter un autre qui peut écouter d'autres. On échange, on se donne nos avis aussi sur les projets, mais il n'y a pas forcément un... Si tu dis non, moi c'est non. Enfin, c'est assez fluide comme manière de fonctionner, je trouve. Okay.
Et alors, dans est-ce que vous avez des critères de niveau de développement professionnel des artistes. Il y a le, bon, il y a l'artistique, évidemment, mais aussi, est-ce que les artistes, elles doivent avoir un certain niveau de développement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une boîte de prod derrière ou pas? Ou comment ça se passe, ça?
C'est variable. Ouais. C'est assez variable. Et d'ailleurs, dans certains plateaux, on voit, on a des artistes qui vraiment... parfois, on fait que très peu de scènes, et c'est ça, en fait, tout le côté assez intéressant de ce festival, c'est qu'il est dénicheur, et à la fois, il est levier aussi pour ces projets-là. Donc, et l'idée, c'est que à ce moment-là, sur ces scènes et sur ces plateaux, qu'un projet qui est très jeune en termes de développement puisse côtoyer... backstage ou à un autre moment, une artiste ou un projet qui soit beaucoup plus avancé. Et ça, c'est un peu le cœur, l'ADN du festival, c'est ce moment de partage.
D'accord,
aussi.
De rencontre.
Voilà, voilà, exactement. Donc, il n'y a pas un critère. Ensuite, il y a des réalités économiques sur la programmation, sur le remplissage. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, ça, c'est évident. Mais il y a la place pour des projets émergents, autant que pour des projets très avancés. Après, on n'est pas un festival de grosses têtes d'affiches. On n'est pas... Voilà. On reste, je dirais, dans un niveau, je sais pas, intermédiaire. Et donc, voilà, dans ce sens, il y a quand même... C'est assez... Tu vois, le spectre est assez large.
D'accord. Et alors, du coup, au niveau de l'économie, déjà... c'est facile à faire. Vous êtes très riche, vous faites plein d'excédents, voilà. ou est-ce que c'est tous les ans, au secours, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Et quel type de... Est-ce que vous avez des soutiens? Quel type de soutien? Voilà, déjà ça, niveau de l'économie, comment ça marche? Est-ce qu'il y a une majorité des recettes de billetterie ou comment ça se passe?
Alors, il y a une réalité par rapport à l'économie autour des projets émergents et en développement en France.
Ça ne marche pas.
c'est compliqué, c'est compliqué, effectivement, c'est de trouver son équilibre là-dedans. Alors non, on n'est pas blindé, c'était une blague. Disons que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, souvent d'une édition à l'autre aussi, parce que justement par ce pari qu'on fait avec ce festival de défendre l'émergence, parfois il y a un équilibre précaire sur lequel il faut jongler un peu. Mais par contre, oui, on est soutenu. Par des organismes publics. On est accompagné par le CNM, par la SACEM, par la DRAC Île-de-France, que j'oublie pas, la ville de Paris.
Une société civile un peu,
alors,
Adami,
on a
Audience.
Mais Adami, oui. Oui, l'Adami aussi, ponctuellement sur des plateaux. Et voilà, il faut aussi aller chercher du soutien côté privé, donc la partie mécénat. Et donc voilà, avec ces éléments-là, puis la billetterie, qui représente...
Et les lieux qui vous reçoivent aussi participent ou ils vous louent plein pot
Ça dépend de...
Ils apportent en fait, c'est aussi des... en industrie,
oui,
peut-être.
Oui, c'est des... Comment dire, des... C'est variable, je ne vais pas dire à la carte, mais quelque part, en fait, selon les économies aussi, on adapte le modèle.
D'accord.
Y a une réalité un peu complexe au niveau de l'émergence pour le soutien de ce genre d'initiative.
Et du coup, en tant que programmatrice, quand tu prépares, quand tu as un artiste qui t'intéresse, tu veux essayer de le programmer, est-ce que tu as un budget? T'as un budget pour la date, t'as un budget pour une enveloppe globale, ou comment ça se passe, toi, quel lien toi tu as justement avec cette économie-là? Et après aussi, qu'est-ce que tu proposes comme contrat aux artistes quand ils sont programmés?
Si tu as une idée d'une soirée par rapport à une esthétique, par exemple, D'abord, c'est aller chercher un peu les informations financières concernant les artistes. Donc soit les artistes sont entourés, pour le coup, on s'adresse à l'entourage professionnel, soit c'est en direct avec l'artiste. Et donc dans ce cas-là, il y a deux contrats différents, soit un engagement direct avec l'artiste, soit un contrat de session avec la production, etc. Et donc, c'est de la négociation, de toute façon, en fait. Effectivement, on établit...
Toi, tu as ton budget artistique et tu
et ensuite,
tu fais tes négos à partir de ça.
Tu fais du Tetris aussi, parfois, à des moments. Parfois, tu fais des concessions à un endroit et tu vas venir t'arranger sur d'autres endroits. L'idée étant de proposer quand même des deals qui restent convenables pour les artistes. Et voilà.
OK. Alors, peut-être sur la partie management, je pense qu'il y aura d'autres choses à dire sur le festival, mais bon, on laissera les questions, le public faire son travail. Et donc, sur la partie management, alors, comment... Qu'est-ce que c'est déjà qu'un manager, qu'une manageuse et que, comment, pardon. quel est le rôle d'une manageuse et puis toi, avec qui tu travailles, comment tu travailles et est-ce que tu as le temps de faire tout ça avec le reste?
Pas vraiment. Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse... parfaite, tout faite de ce qui est le métier de manager-manageuse, ou en tout cas d'agent artistique, si on l'entend comme ça. Mais c'est cette idée d'accompagner un projet sur tous les aspects de ce projet, autant sur le live, que sur l'enregistrement, que sur la communication, sur plein d'autres choses
l'édition
et des choses qui sont de l'ordre plus de relations humaines aussi, parce que parfois le manager manageuse se trouve à un endroit où on va faire aussi du coaching personnel, on va accompagner aussi l'artiste sur des moments de doute, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une vision vraiment 360 du projet et qui peut, à l'endroit où elle n'aurait pas la compétence pour, du moins trouver les partenaires et les personnes qui vont venir se greffer au projet et du coup pouvoir combler en fait toutes ces choses-là. Donc, le manager, il est autant la manageuse et autant, et autant l'interlocutrice ou l'interlocuteur de l'artiste face à d'autres professionnels, j'entends maintenant le bruit de la chaise.
Ça y est, ça y est.
En quelque sorte aussi, la personne qui va, c'est protéger, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, préserver l'artiste à un certain nombre de choses, justement par ces missions. Après, moi, ce que j'ai fait jusqu'à présent, encore une fois, comme je vous disais, je viens pas du milieu de la musique dans un parcours classique traditionnel. Et ça s'est fait en fait vraiment au fur et à mesure, avec des artistes avec lesquels j'ai toutes des femmes, comme ça, et avec lesquelles en fait petit à petit j'ai commencé à m'occuper de choses, de nouvelles missions, on va dire. Mmh. Et avec certains projets, ça a été des missions ponctuelles, délimitées. Donc plus d'accompagnement que de management, de consulting aussi, et un peu de diffusion. Donc vraiment assez, assez large.
D'accord. Parce qu'il y a une demande énorme, il y a tellement d'artistes, donc il y a une demande énorme. Comment ça se passe la rencontre avec un artiste où tu te dis, lui je vais... Ou elle, pas lui.
Elle, lui non. Je ne suis pas fermée, mais oui, c'est elle. Pour l'instant, ça a été qu'elle, pluriel.
Donc comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Ou est-ce que toi, tu te donnes... est-ce que tu sais pourquoi tu bosses avec un tel ou pas avec un tel?
Oui. Ah oui, je le sais. Alors, j'ai eu deux façons différentes de commencer une collaboration avec des artistes. Pour certaines, je les ai vues sur scène et ça a été le coup de cœur absolu. Donc, super crush artistique. Et pour moi, c'était une évidence me rapprocher de ce projet et voir ce qui était possible de faire ensemble. À partir du moment où l'artiste était d'accord, bien évidemment. Et d'autres, ça a été des artistes qui sont venus me chercher, soit parce qu'elles m'ont vu travailler avec d'autres projets, soit parce qu'elles voient aussi le lien avec le festival, avec les femmes sans mêle, soit parce qu'elles cherchent à être entourées par des femmes. Enfin, voilà, il y a plein de raisons. Et donc, j'ai les deux. Et à un moment donné, même pour celles qui sont venues me chercher, il fallait qu'il y ait quand même cet accord artistico-musical et cette chose qui est... Voilà, cette passion, tu vois, quelque chose qui te dit oui. Enfin, moi, il n'y a aucune des artistes avec lesquelles j'ai travaillé, avec qui je n'ai pas eu la chair de poule en les regardant sur une date. Et pour moi, ça, c'est cette espèce de chose très, très primaire, je ne sais pas. Pour moi, c'est ce qui me dit c'est bon, c'est le bon endroit, je suis là où je veux être.
Ok. Ouais. Et actuellement, tu travailles avec quelqu'un en particulier ?
Alors actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'avec le fait que tu disais, tu as très bien pointé le temps. qui ne dure pas éternellement. Donc du coup, comme je suis aujourd'hui quand même à 100% sur le festival, c'est vrai que... Et en plus, je suis maman. Donc, d'un petit enfant, donc je dois jongler entre ma maternité, le travail. Et c'est vrai que pour pouvoir être aux côtés des artistes de la meilleure manière, il faut avoir du temps à consacrer pour le projet, etc. Et donc, je pense que pour pouvoir faire ce travail de management, il me faudrait une deuxième vie, une deuxième personne. Ouais. Parce que c'est le temps qui manque à ce moment-là. Donc, bon, pour l'instant, je suis...
Ok. Et alors, peut-être avant de passer la parole, donc préparez vos questions, avant de passer la parole au public, moi, je suis une artiste qui développe un projet, je voudrais jouer aux Femmes sans mêle. Comment je fais au festival? Comment je te contacte? C'est quoi la manière de démarcher et de...
Eh bien, tu nous envoies un mail, moi et Stéphane. Nous contactissons sur notre site internet. Ouais. Tu peux aussi nous contacter sur les réseaux sociaux. Parfois, ça arrive. Tu peux te rendre aux dates des Femmes sans mêle et venir, même si je sais que c'est extrêmement difficile pour les artistes d'aller pitcher toutes seules leur projet aux professionnels et que c'est très complexe. Tu pourrais venir nous voir, nous interpeller aussi lors des événements, nous envoyer du matériel audio et audiovisuel si tu en as, si tu as des extraits live. D'accord.
Mais par exemple, quand tu dis tu peux venir nous voir, ça vous appréciez quand les gens connaissent le festival et viennent voir et vous disent ah bah tiens. J'aime bien le festival et j'aimerais... qu'ils connaissent, qu'ils parlent qui se présentent en connaissant les choses, quoi.
Oui, parce que déjà, c'est une reconnaissance du travail qu'on fait. Donc ça, c'est important, je pense, pour toutes les personnes ici présentes. Je pense que personne ne dira « Ah non, j'ai pas envie d'être reconnue de mon travail, donc ça ne m'intéresse pas ». Mais aussi pour que les personnes comprennent qu'est-ce qu'on porte comme valeur, quel est le cœur du projet, à qui ça s'adresse. Donc, effectivement, si les personnes ont entendu parler du festival avant, pour nous, c'est chouette. Désolée pour la chaise, ça fait trop de bruit. C'est chouette, mais après, le chemin un peu, disons, classique, c'est effectivement, donc envoyer un mail avec la proposition artistique et des choses à écouter et à voir.
Ok. Voilà. Il n'y a pas... certaines choses à connaître parce que souvent, enfin nous par exemple ici, on dit aux gens faut proposer votre projet au bon moment. Quand vous pouvez remplir une salle de 50 places et quand que ça serve à quelque chose. Est-ce que vous avez un truc un peu comme ça où faut le faire ou non, c'est la rencontre qui va se faire.
Oui, c'est la rencontre, et après, j'ai envie de te dire, parfois, tu peux venir de commencer ton projet, et tu as une proposition artistique incroyable, c'est juste que tu n'as pas eu l'opportunité de la présenter en bonne et due forme, et ça peut faire voilà, toute la différence. Encore une fois, on est un festival des fricheurs, qui va aller aussi chercher les talents... voilà, de demain.
Bon alors, à vous, les talents de demain. Tristan, peut-être une question sur Twitch ?
Pas de question Twitch pour l'instant, mais ça va venir. On va commencer par une question dans la salle.
Bonjour. Déjà, merci pour tout... ce que vous avez dit jusqu'ici. Moi, j'ai une question sur les femmes s'engagent. On en a peu parlé. Du coup, j'imagine que c'était plutôt le versant peut-être non musical ou un peu moins musical par rapport à ce qu'on disait avant. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des artistes qui présentent des choses? Est-ce qu'il y a aussi d'autres professionnels qui vont parler de... Enfin, voilà, je veux tout savoir.
C'est trop bien, merci. J'adore cette question. Alors oui, donc les femmes s'engagent. Non, c'est pas tant un pendant pas musical, parce que comme tu l'as dit, en fait, on a aussi des artistes qui font partie un peu de l'histoire du festival, mais aussi des artistes avec qui on aime bien collaborer, par ailleurs, qui, elles, en plus de leur projet artistique, ont une espèce de volonté de transmission. Et avec qui on propose, par exemple, de masterclass. On a Thérèse, par exemple, qui fait une masterclass sur l'image de l'artiste et le storytelling. On a Songe, qui fait des ateliers de beatmaking et MAO. On travaille avec des collectifs de DJ, donc, dont elles sont elles-mêmes artistes, pour l'initiation, le perfectionnement mix. Et puis on a des temps aussi de plus de sensibilisation, en fait, avec des rencontres dans lesquelles effectivement on invite d'autres professionnels, artistes ou autres professionnels de la filière, pour aborder des sujets du coup qui nous mobilisent à ce moment-là et qu'on veut aborder. Je disais tout à l'heure les VHSS, mais également les VHSS, les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. L'astérisque, et la santé mentale. D'ailleurs, je fais un petit moment de pub. Donc le 22 et 23 mars prochain, on organise à Petit Bain deux journées autour de la question de la santé mentale, du coup, dont la musique, avec trois ateliers, dont deux sont déjà complets, mais il reste une place. Voilà, on aborde comment survivre dans le milieu de la musique, qui est porté par une artiste... qu'on aime beaucoup, il s'appelle Charlotte Segarra. Ensuite, on a un atelier avec Elodie Vatrin, qui est elle, manageuse artiste et marathonienne, qui a créé un programme qui s'appelle Remise en scène, sur lequel elle fait elle l'expliquera beaucoup mieux que moi, bien évidemment, mais elle met en place des tips, enfin des conseils en tant que pour préserver sa santé mentale en tournée, par exemple, donc autour de l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil et l'activité physique, par exemple. Et on finit le 23 avec une projection d'un documentaire qui s'appelle « Que se passe-t-il dans la tête du rap français ?» sur la santé mentale dans le rap, suivi d'une rencontre avec sa réalisatrice, une journaliste indépendante de rap, l'association Consentis, et moi à la modération. Donc ça, c'est pour te donner un exemple de ce qu'on peut faire aux femmes s'engagent. Nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, on essaye de répondre à cette question de qu'est-ce qu'on fait face à ce constat de la sous-représentation des femmes à plein d'endroits. Donc on va essayer, si c'est il n'y a pas assez de femmes sur scène, qu'est-ce qui se passe au tout début, un accès à la création, le processus créatif qui est en plus très solitaire, où les artistes parfois se sentent un peu isolés à ce moment-là. Donc comment les mettre ensemble pour lancer des dynamiques, comment produire, comment composer, la scène, ensuite comment s'entourer, structurer son projet, quelles sont les étapes. Tout à l'heure tu disais est-ce qu'il faut proposer aux artistes, enfin est-ce que les artistes, à quel moment, et bien ça typiquement, on a des intervenantes qui proposent d'ateliers où on peut déjà comprendre l'écosystème de la musique. savoir qui fait quoi, et ensuite pouvoir se positionner comme si c'était une espèce de carte, savoir à quel niveau et à quel endroit son projet se trouve à ce moment-là.
Juste, les femmes s'engagent, ça s'adresse essentiellement à des artistes ?
Pas que.
Ouais. Il y a aussi des professionnels de la musique. Mais je pensais que moi, c'était que des... Enfin, surtout des professionnels de la musique, quoi. Qu'on parlait surtout du métier, enfin...
Non, c'est assez...
Non, ça s'adresse beaucoup, même sur l'artistique, si vous faites des masterclass.
Ça s'adresse vraiment... Enfin, autant... Bon, il y a clairement des ateliers où le public qui va venir massivement, c'est plutôt des artistes. Ouais. Mais moi, par exemple, personnellement, moi, je pense que la question de la technique, la maîtrise... aujourd'hui on a une technicienne au plateau, donc ça c'est cool qu'il y ait des femmes à la technique.
Yolaine,
merci.
Qui fait la régie.
Moi je pense que c'est important aussi qu'on soit artiste, donc on parte en tournée, qu'on soit autonome, qu'on sache se brancher, qu'on ne dépende pas forcément des équipes, même si on est en communication avec les équipes bien évidemment, mais d'avoir cette indépendance là, de connaître en fait le langage technique pour parler la même langue en fait des équipes qui nous accueillent, mais aussi pour les personnes qui entourent les artistes, de pouvoir lire une fiche technique, de savoir de quoi on parle en fait, pour éviter un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer sur la route. Voilà.
Il y a une question Twitch.
Wow.
La question c'est par rapport donc au festival Les Femmes Sans Mêle et au côté itinérant. Est-ce que vous avez des partenariats réguliers avec des salles dans les villes dans lesquelles ça se passe, et donc est-ce que ces partenariats perdurent dans le temps? Tu parlais de Marseille et de Grenoble tout à l'heure, mais est-ce que ça reviendra à nouveau dans ces endroits-là?
On espère. Alors, donc, comme je disais, le festival est devenu itinérant très rapidement après sa création. En fait, il y a quand même des liens historiques avec certaines salles, dans certaines villes, ou même si les équipes ont un peu évolué depuis, changé, etc. En fait, il reste quand même des liens forts. Donc oui, il y a des salles qui reviennent, qui renouvellent l'opération Les Femmes Sans Mêle tous les ans, mais il y a aussi de nouvelles salles. D'autres salles qu'on ne connaît pas. Souvent, c'est des SMAC, en fait, en dehors de Paris. Et parfois, ça peut être même des salles qui se mettent ensemble. L'exemple de Grenoble est assez intéressant parce que, du coup, il y avait autant La Bobine que Le Ciel, La Belle Électrique, Eve, qui est une salle plutôt étudiante, de la fac de Grenoble. Mmh. Et donc, toutes ces salles-là intègrent le dispositif, tout le dispositif Les Femmes Sans Mêle pendant un mois, proposent des programmations différentes en fonction de aussi leurs esthétiques et ce qu'ils défendent. Et en fait, on est toujours à la recherche des salles qui seraient prêtes à accueillir et le plateau et Les Femmes S'Engagent. Donc, s'il y a des salles qui nous écoutent et nous regardent et qui n'en font pas partie, c'est le moment d'en faire.
Il y a des questions par ici.
Bonsoir. Quel conseil pourriez-vous donner à un ou une jeune artiste débutant qui n'aurait rien d'autre à présenter pour l'instant que son talent?
Ok, d'accord. Son talent, donc c'est-à-dire quelqu'un qui pratique déjà de la musique?
Qui pratique de la musique, mais qui a...
Ah,
micro.
Pardon.
Micro. Quelqu'un, oui, qui pratique de la musique, mais qui n'est pas actif sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de public, qui n'a pas de matière, qui ne sait pas encore, un artiste débutant, complètement débutant en fait. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner?
Waouh, oui, plein. Déjà, les réseaux sociaux, je pense que c'est une étape à venir. On peut le faire en parallèle, je pense, mais c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'espace, charge mentale, énergie, temps. Donc, dans un premier temps, déjà, la matière première du projet, qui est la création. Donc, si la personne n'a pas encore enregistré quelque chose, même une maquette, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui, pour faire la promotion de leur projet, envoient des liens SoundCloud privés avec des maquettes qui ont enregistré, ou en précisant qu'il s'agit des maquettes d'un prêt, quelque chose. Ensuite, moi, j'encouragerais à cette femme ou à cette personne d'aller dans des jams, par exemple. En fonction de l'esthétique et de ce que la personne fait, je l'encouragerais à aller dans des jams en mixité choisie, surtout si c'est des femmes et des personnes non-binaires qui veulent... Voilà. Parce que c'est des espaces assez bienveillants où, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver, c'est des espaces aussi où il y a de la place et on laisse un peu d'espace aux gens pour exprimer leur proposition. De participer, de venir dans ce genre de rencontre, de participer à tout ce que ces initiatives proposent pour l'égalité, pour la diversité, l'inclusion, pour essayer de commencer à se faire un réseau. Je dirais pas non plus tout de suite aller se jeter dans dans l'océan comme ça, parce que ça peut être un peu vertigineux, mais en tout cas, d'y aller progressivement, en fait, commencer à se construire un réseau de cette manière-là.
Et tout à l'heure, tu parlais des tremplins ou des dispositifs de sélection qui pour toi, sont aussi un endroit de repérage. Mm-mm. Mais est-ce que c'est le moment, là, d'y aller, ou est-ce qu'il faut y aller à quel moment c'est le plus opportun d'aller sur les tremplins, là? Est-ce que des fois, c'est pas un peu...
Ça dépend des tremplins.
Ouais.
Parce qu'il y a des tremplins... Tu vas pas aller aux Inuits du Canton de Bourges tout de suite. Mais il y a des tremplins déjà identifiés, merci, parce que tu me souffles la réponse, du coup. Mais identifiés aussi au niveau local, déjà dans sa ville. Et là, du coup, j'ai une autre idée aussi. Se rapprocher des structures d'accompagnement aussi, donc des salles qui, elles, ont pour mission, donc c'est dans leur cahier de charge, d'accompagner les projets artistiques. Donc peut-être pour aussi pouvoir enregistrer quelque chose un peu plus de manière professionnelle, on va dire, et identifier, justement, faire une petite recherche et identifier quels sont les tremplins qui acceptent des projets vraiment très, très, très débutants. Et ça peut être un premier, effectivement, merci Stéphane, c'est une première étape pour se faire connaître, quoi. Après, je pense qu'il y a plein de
une
réponses encore.
Une petite question, là-bas. Et après, il n'y a peut-être pas... Il y a plein de manières de faire différentes.
Oui,
aussi.
Oui, bien sûr, ce n'est pas la vérité absolue, c'est des conseils parmi... Voilà.
Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, lorsqu'on est productrice musicale d'un artiste ou d'une artiste, est-ce qu'on peut être aussi son manager en termes de contrat? Est-ce qu'il n'y a pas de cannibalisation? Je ne sais pas, en fait. Je pose peut-être une question bête, mais je... Voilà.
Alors, non, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de questions bêtes. J'espère pouvoir avoir la réponse. Mais ça dépend, parce que est-ce que la personne qui manage l'artiste a un contrat avec l'artiste déjà ?
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. Mais l'artiste a une productrice, un producteur.
En fait, c'est moi la productrice.
Ah d'accord, ok. Et il y a quelqu'un au management et tu sais...
Il y a personne au management. Et en fait, justement, ma question, c'est est-ce qu'on peut cumuler les deux métiers, les deux casquettes de productrice et de manageuse ?
Oui, tout à l'heure, tu vois, j'expliquais,
Oui,
ok, merci. Tout à l'heure, je disais que, moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, j'ai un peu adapté aussi, en fonction de mes compétences, mon temps, etc., l'offre que je faisais à l'artiste pour l'accompagner. Et donc, parfois, je me suis trouvée justement à faire du booking pour des artistes, alors que je suis vraiment pas bonne pour ça. Et j'aime pas. Mais bon, il y a des gens très compétents qui savent le faire, mais moi, c'est pas du tout.
Qui aiment. Il y a des gens qui aiment.
Qui aiment beaucoup.
Chose complètement.
Voilà. Complètement lunaire. Mais du coup, je me retrouve aussi à faire des choses pour lesquelles j'avais pas signé au début. Mais c'est pas incompatible. Je pense que le temps que l'entourage se consolide, si l'idée c'est d'aller chercher d'autres partenaires, tu peux bien évidemment venir. Appuyer là où c'est bancal, d'accord. Je pense. Mmh.
Voilà. Ok, merci.
Ah, et ben encore une question Twitch. Je vais essayer de la relayer à peu près correctement. Donc, en gros, si on veut proposer des artistes au festival, il vaut mieux qu'on propose des artistes qui habitent proche des villes dans lesquelles le festival a déjà lieu. Ou est-ce qu'on propose des artistes et c'est vous qui vous débrouillez pour trouver des dates peut-être qui vont être un peu proches de là où sont les artistes?
Mm-hmm. Est-ce que j'ai bien compris la question?
Eh ben, je suis pas sûr de l'avoir bien comprise moi-même.
Non, si, je pense voir un peu. Est-ce que, vu qu'il y a cette dimension itinérante, est-ce que, et comme je disais qu'il y a aussi un soutien des artistes locaux quand on joue dans certaines villes, est-ce qu'il vaut mieux... Alors dans ce cas-là, il faut peut-être savoir à l'avance, parce que nous-mêmes, parfois, on ne le sait pas, quelles sont les villes et les salles qui vont être partenaires pour la tournée. Et auquel cas, moi je pense que dans tous les cas, il faut s'adresser aux salles géographiquement proches pour proposer son projet en programmation ou en accompagnement. Ça, c'est, je pense que c'est important. Ensuite, parfois, si on a des noms qui reviennent, effectivement, si on est en discussion avec une salle, j'en sais rien, j'ai une ville au hasard, vraiment au hasard, c'est pas... Quand ce que j'y ai vécu. Par exemple, si on est en discussion avec une salle à Caen et que du coup, on a entendu beaucoup parler de ce groupe, je dis ça encore au hasard, Fish Talk, au hasard, et bah, du coup, peut-être que lorsqu'on va échanger avec les équipes de programmation, direction de la salle, on va, puisqu'on co-construit souvent les plateaux, on va dire, ah bah tiens, bah nous on connaît Fish Talk, on a reçu le projet, ça nous paraît intéressant, est-ce que ça pourrait convenir? Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu correctement.
Et est-ce que dans l'émission du festival, il y a aussi le rayonnement des artistes, enfin parce que souvent les artistes aussi ils sont localement, ils développent localement, alors surtout dans les régions. Mais après, passer d'une région à une autre, c'est un peu... Et du coup, comme le festival est itinérant, est-ce qu'il sert un petit peu à ça aussi, à faire en sorte que les artistes aillent se montrer sur d'autres territoires
Totalement, ouais. Totalement. Oui, oui, l'idée, c'est d'une part de faire rayonner les projets. Et ça, c'est clair que c'est quand même un peu le cœur de ça. Okay. Et puis surtout de contribuer aussi à la professionnalisation des artistes, parce que si tu as 6 dates dans le cadre d'un festival, dans une tournée, et tu as 6 cachets. Mmh. Et si tu es en voie de... Voilà, si tu veux avoir le statut d'intermittent, peut-être que ça va te permettre, en plus de rayonner, de pouvoir aller dans cette voie de professionnalisation, par exemple. Voilà.
Et alors, excusez-moi, par rapport à l'étranger, donc comment ça se passe ça? Parce qu'il y a de plus en plus, apparemment, vous vous développez dans des villes à l'étranger. Alors, comment ça se passe? Quelles expériences? Est-ce que ce sont des artistes avec un niveau international ou c'est des artistes français, par exemple françaises que vous pensez pouvoir développer un peu
Alors donc c'est variable. Aujourd'hui à l'international on a la Belgique, ouais. Charleroi, qui fait depuis des années accueille des éditions des Femmes sans mêle. À l'époque, moi j'y étais pas encore dans le projet, mais il y a eu aussi la Pologne, il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, la Suisse. Mais en fait, la problématique de pouvoir reproduire ça au niveau international et européen, c'est d'une part l'argent, les moyens, le réseau, c'est-à-dire que pour que ça soit pérenne et qu'on puisse même penser à des artistes pour l'export, il faudrait que sur place, il y ait des volontés aussi et des personnes qui s'emparent en fait, du projet pour pouvoir le porter sur plein d'années. Donc aujourd'hui, on réfléchit à... Parce qu'on a été sollicité aussi par des structures européennes à, non pas à exporter le projet des Femmes sans mêle comme si on était à donner de leçons, mais en tout cas à apporter notre vision de ce qu'on fait en France et voir de quelle manière ça peut venir complémenter des choses qui se passent déjà en Europe, parce qu'il y a des trucs qui se passent. Donc, et pour répondre à ta question sur les artistes, donc ça peut être des artistes françaises qui jouent dans les plateaux en dehors de la France, et des artistes locaux également.
D'accord. Ok.
J'ai une question aussi.
Bonsoir. Alors.
Pardon. Merci Adriana, merci beaucoup et merci à l'AMC d'organiser ce type de rencontre. Je travaille avec Cresco, qui est le pôle culturel de la ville de Saint-Mandé. D'ailleurs, on avait cette semaine le festival Femmes et Arts Urbains, qui a super bien marché. Et ça pourrait être intéressant qu'on en discute pour voir s'il y a des passerelles possibles.
Carrément.
Et à côté de ça, j'accompagne des artistes et je me dirige vers le management petit à petit. Donc c'était intéressant de voir à quel moment, moi aussi c'est les frissons qui guident un petit peu mes choix d'artistes et de collaboration. Et je voulais savoir comment tu exprimerais à un artiste sans heurter sa sensibilité, ou une artiste, qu'il faut qu'elle travaille d'arrache-pied avant d'être d'affiche dans un festival comme le vôtre.
Comment
expliquer à un artiste que le travail,
il y a du boulot.
Que le boulot est primordial.
Il y a du avec talent, mais il y a du travail.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit d'avoir des followers pour être sur une scène.
Et je pense que tu pourrais faire parler d'autres personnes à ta place. Par exemple, il y a des artistes qui témoignent justement de cette de comment, voilà, la montée, elle peut être très rapide, tu peux te trouver là et le lendemain, ne plus être là. Aujourd'hui, en plus, avec toutes les questions autour de la production musicale, la facilité d'accès qu'on a aujourd'hui à produire de la musique, les plateformes, TikTok, etc., on peut avoir cette impression-là de rapidité, facilité, mais comme je disais, au même moment où ça peut monter très vite, ça peut aussi très vite se casser la figure. Et surtout les artistes qu'on voit aujourd'hui, qui semblent sortir de nulle part, en fait, ont 15, parfois plus, de temps de travail, on fait des petites scènes, on chante faux, se sont ratés sur scène, etc. Ont changé de nom de projet. Et finalement, ce qu'on voit, donc cette pointe de l'iceberg qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail, en fait, de longue haleine. Et ça n'a pas été miraculeux du jour au lendemain. Voilà. Donc je pense que tu pourrais commencer par proposer ça.
Wait and see.
Voilà. Wait and see. Voilà. Merci. Merci à toi.
Bonsoir. Je relis ma question, je l'avais écrite depuis un petit moment. Tout à l'heure, vous parliez du fait que ce soit les artistes qui viennent à vous pour vous présenter leur projet artistique. Mais à l'inverse, est-ce que les managers font leur repérage et comment, où est-ce qu'on peut vous potentiellement vous trouver Est-ce que vous faites du repérage sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand la personne elle a une page par exemple.
Moi,
oui, alors, vous ou d'autres managers
À d'autres managers, je sais. Potentiellement,
si vous
je,
avez
pense,
tous la même recette
je pense ou... que oui. Ouais. Dans mon cas personnel, comme je disais tout à l'heure que je marche aussi beaucoup au feeling musical, je vais au concert. Je vais écouter quand je peux, quand j'ai le temps. Je vais écouter les projets. Parfois, on m'en parle aussi. Donc, on me dit, il faut absolument que tu écoutes ce projet incroyable. Parfois, c'est dans le cadre des tremplins. Et ça m'est arrivé deux fois avec des artistes dont les projets, je les ai vraiment découverts à cette occasion-là. Tout à l'heure, on parlait d'économie. Plus pour la programmation musicale, peut-être que la fanbase, la présence sur les réseaux, elle est importante. Elle est prise en considération, en tout cas. Mais pour ce qui est du management, surtout quand la personne souhaite accompagner un projet qui commence, on sait bien que tu n'as peut-être pas eu le temps d'avoir 5000 followers d'un coup, que c'est quelque chose qui se travaille. Et pour le coup, tu mets les choses... Tu mets toutes les choses côte à côte. En fait, tu regardes le projet, tu regardes qui est suivi, enfin, par qui est suivi et combien de personnes, mais la qualité du projet, l'artiste aussi au feeling, parce que on n'est pas des intelligences artificielles, donc parfois, il se peut qu'humainement, ça ne soit pas un match de ouf. Donc, pour le coup, tu ne peux pas aller plus loin dans ta recherche de collaboration. Mais je pense que c'est la scène aussi qui fait que... qu'on repère les artistes avec qui on veut travailler, je pense.
Et quand tu reçois un mail, tu regardes quoi en premier? Est-ce que tu regardes l'entourage? Tu regardes le site, les réseaux sociaux? T'écoutes juste, mais tu regardes rien et t'écoutes d'abord?
Je fais un peu de tout, de ce que tu viens de dire.
Il n'y a pas une manière de faire... Il n'y a pas un truc où tu vas plus facilement?
Ça dépend des jours, en fait. Si j'arrive... Ça va paraître un peu prétentieux, mais si j'ai mal à la tête, je vais peut-être pas écouter tout de suite le projet, je l'écouterai plus tard. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans mon expérience, c'est que comme j'étais des deux côtés, c'est-à-dire que j'ai été la nana qui a envoyé 40 fois le même mail à la même personne, comme j'avais dit dans mon dernier mail, est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance? Maintenant, j'ai un peu le double, la comparaison. Je me dis, en fait, moi, ce qui était terriblement frustrant pour moi, c'était que mon message ne soit pas lu, ou que j'ai du moins une réponse à un accusé de réception, quelque chose. Et donc, j'essaye dans la mesure du possible, c'est pas tout le temps possible parce que le temps, d'écouter et de répondre ou de lire. Et souvent, je vous cache pas que quand il y a un mail qui est un peu général, c'est-à-dire envoyé, ce qui n'est pas personnalisé. Après, c'est pas obligé que ça soit mon prénom, mais ça peut être Hello, le festival Les Femmes Sans Mail, ou voilà, qui est au moins une attention dans laquelle on se dit la personne, elle sait pourquoi elle est en train de démarcher cette structure ou pas et pas une autre. Et quand je vois que c'est vraiment quelque chose de peu personnalisé, ça m'interpelle un peu moins. Je l'écoute quand même, j'essaie de lire tout, mais parfois, voilà, c'est pas possible.
Pardon.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir si tu reçois une invitation, est-ce que si tu as le temps et tu es disponible, tu vas voir les concerts des artistes, même si ce n'est pas forcément des artistes, la musique que toi t'écoutes, ou juste pour voir un peu le projet, pour éventuellement voir si ça peut intéresser des gens que tu connais, ou même si ça peut t'intéresser toi.
Alors oui, en fait, on reçoit beaucoup d'invitations pour des concerts. Oui. Et après, c'est vraiment une question de temps, en fait. Plus qu'autre chose, comme je disais tout à l'heure, je suis maman, j'ai un enfant qui n'est pas très grand, donc il ne peut pas pour l'instant se garder tout seul.
Et il faut par exemple, si je veux te envoyer une invitation, combien de temps on avance? Parce que je me dis, si je t'en vas pour dans 3 mois, peut-être tu vas oublier, mais si je l'envoie pour la semaine prochaine, peut-être tu n'es pas disponible. Est-ce qu'il a un bon timing
Tu peux l'envoyer pendant 3 mois et tu te mets un rappel après pour relancer une ou deux fois à l'arrivée de la date. Et peut-être avec d'autres informations en plus, si entre-temps, je ne sais rien, tu as sorti un clip, jeudi, comme ça.
Ouais.
Mais il faut savoir que oui, je pense que pour vous, ça doit être pareil, on reçoit régulièrement beaucoup, beaucoup d'invitations. Et après, c'est vraiment une gestion de temps et l'équilibre de la vie professionnelle et la vie privée.
Ok, merci pour le conseil.
Et par exemple, à quelle échéance parce que tu disais que le gros du festival, c'était à l'automne, en novembre, c'est ça? Et quand est-ce que vous avez terminé la prog?
On est en train de...
Là, ça y est, on est en mars
on
et
est
c'est terminé
de...
Ouais.
Ouais,
c'est... Ouais. C'est cette temporalité-là.
Oui, oui. Ouais. Ouais, on est en train de... Désolé. de terminer la programmation, mais oui.
Ah, un micro, s'il vous plaît. On ne parle que dans le micro. Attention.
Bonsoir, merci beaucoup, Adriana, pour toutes ces infos. Moi, j'ai une petite question, par curiosité. Je voulais savoir, quand on fait un choix, en fait, pour un festival, il y a le choix du cœur et il y a le choix de la raison. Donc, est-ce qu'en fait, on est un peu influencé par les courants? Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ça, c'est « bankable », entre guillemets? Est-ce que ça va marcher, etc. Même si ce n'est pas le style de musique qui est dans ce qu'on écoute naturellement. Ou est-ce qu'on suit juste son cœur, en fait? Et toi qui as de l'expérience sur les découvertes, en fait, de talent, comment ça fonctionne, en fait, à ce moment-là, par rapport au fait de choisir ou de vouloir mettre en avant certains artistes? Est-ce que tu restes à contre-courant? Tu te dis, mais ça va marcher, même si c'est complètement en dehors de ce que... Parce que tu ressens les choses, ou est-ce que tu regardes un petit peu les trucs un peu plus cartésiens, ou ça va marcher parce que ça a du potentiel, même si moi, même si toi, je veux dire, tu vas pas forcément l'écouter à premier abord, mais c'est peut-être dans la tendance. Ou est-ce que c'est vraiment un truc de ça te donne la chair de poule, donc c'est bon, et puis c'est tout, voilà.
Alors, quand je disais ça, je parlais de moi, mon rapport au management, comment j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Après, comme on disait tout à l'heure, pour ce qui est de la programmation d'un festival ou d'une salle de concert, il y a bien évidemment des facteurs économiques et un modèle et des risques qu'on prend ou pas et la capacité qu'on a de les prendre. Donc là-dedans, évidemment que tu peux, tu marches au coup de cœur, mais tu reconnais aussi le talent et puis tu sais aussi que en fait ta mission en tant que festival, c'est de donner quand même dresser un peu un portrait large de ce qui est l'offre des projets des artistes femmes à la scène indépendante. Donc même si c'est pas ton style de musique de prédilection, tu sais que ce projet a un public et que lui donner une scène, ça a du sens. Maintenant, pour ce qui est du management, moi personnellement, après peut-être que d'autres personnes fonctionnent d'une autre manière, si le projet, il n'est pas obligé de me donner la chair de poule automatiquement, mais je veux dire, si je ne vais pas me sentir à l'aise avec la proposition artistique, je ne serai pas capable de le défendre en fait. Le défendre pour une programmation, le défendre face à d'autres partenaires que je voudrais ramener à l'aventure. Donc c'est en ça que je disais tout à l'heure que souvent c'est parce qu'il y avait cette conviction aussi artistique et ce match, quoi. Ouais, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, plus ou moins.
Le micro. Il faut le micro.
Pardon. En fait, on est un être humain, donc c'est vrai que quand on programme, on est quand même un peu poussé à vouloir mettre en avant certains trucs qui nous touchent plus. Enfin, là, on était. Enfin, je veux dire. Après, c'est vrai que c'est en tant que manager, j'imagine bien que c'est un truc vraiment. Il faut que ça soit à 100% le cœur, quoi. Mais pour un festival, pour une programmation, c'est vrai que c'est pas évident de se dire. Je vais faire mettre un groupe de métal si on écoute que beaucoup de rap ou si on. Voilà, quand on est deux programmateurs, c'est quand même pas évident de faire des choix. Ça, c'était ça en fait.
D'accord, ok. Ouais. Je pense pas que ce soit pas évident parce qu'on est deux, mais je. Tu programmes pas uniquement parce qu'il y a t'as un coup de cœur. C'est tu programmes aussi, comme je te disais, quoi, parce que tu as aussi une lecture de l'évolution de la musique, en fait, tout simplement. C'est des musiques actuelles qui sont en constante évolution, en mouvement. Et
ça n'empêche pas que le projet soit de qualité, etc.
Bien sûr, forcément. Mais non, bon, après, effectivement, si le projet ne te parle pas et que c'est, j'en sais rien, moi, comme tout à l'heure, je parlais de la musique expérimentale, enfin, moi, c'est pas du tout mon créneau, je ne m'y connais pas. Donc, si le projet ne te parle pas, et en plus, tu connais pas l'esthétique, je sais pas si tu vas programmer ça parce qu'il y a un public. Enfin, voilà, je sais pas si...
Si toi, tu arrives à ressentir, en fait, en tant que, avec ton expérience, en fait, de dénicheuse de talent, des trucs qui sont totalement à contre-courant, mais où personne ne parie, en fait, que ça va fonctionner, et toi, tu arrives, par exemple, à te dire, y a un potentiel énorme là-dedans, même si c'est pas évident, en fait, à avoir.
Alors, moi, je l'ai déjà senti pour des projets, mais après, c'était pas non plus complètement à contre-courant. C'est-à-dire que c'était un projet très intéressant. Le potentiel était... bien évidemment là, visible, réel, sauf qu'à cet endroit-là, peut-être que d'autres personnes ne l'avaient pas vu et moi, je l'ai vu à ce moment-là. Voilà, c'était le bon moment, le bon endroit.
Une question.
Ma question perso. Non, tu parlais de lead féminin tout à l'heure et est-ce que vous avez établi une définition du lead féminin? Parce qu'on a quand même connu une époque où plein de groupes mettaient des femmes pour chanter, pour que ça fasse joli, mais ça n'en faisait pas nécessairement un lead.
Alors, si je peux me permettre, sur ta question, je n'ai pas parlé de lead féminin. J'ai parlé de projets portés par des artistes femmes et des artistes femmes. Mais bon, après, ça, c'est... voilà. Mais alors...
Porté, donc.
Oui, c'est enfin, un projet d'artistes femmes. Voilà, c'est juste un truc des termes. Et du coup, je me suis perdue dans la question, excuse-moi.
Alors, est-ce qu'il y a une définition de qu'est-ce qu'un projet porté alors, par une femme?
Alors, nous, par exemple, on accueille des plateaux mixtes, par exemple, dans lesquels il peut y avoir des femmes et des hommes. Donc, il y a donc un projet porté par une femme. Donc, la femme, elle peut être au chant, à la guitare. On reconnaît que là où il faudrait faire des efforts supplémentaires, c'est pour avoir des groupes qui soient composés à 100%, on va dire, par des femmes. Et il y en a plein. Mais disons que le critère en tout cas, c'est un lead porté par une femme. Donc au chant, à la guitare. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à ta question ?
Il y avait une question devant, et puis après une autre là-bas.
Moi, j'ai une question sur l'aspect, donc les femmes s'engagent sur tout ce qui est finalement de l'action culturelle. Comment vous définissez en fait les besoins, en tout cas, comment vous allez dire, voilà, là, on va organiser un atelier sur ça, parce que les besoins, c'est ça. Comment vous avez déterminé qu'il fallait faire un atelier beatmaking ou j'en sais rien. C'est parce que vous avez eu des gens avec qui vous avez échangé qui étaient dans ces trucs-là, ou c'est vraiment vous vous êtes dit, non, mais là, on a besoin de ça, et du coup, on va aller chercher ces personnes-là pour faire ça, quoi.
Donc quand on a commencé en 2021, en fait, ça faisait déjà un an et quelques qu'on avait fait un travail de repérage et d'échange avec pas mal de structures qui travaillaient autour des thématiques de l'égalité de genre et dans la musique. Et on avait quelques sujets qui étaient plus ou moins repérés parce que aussi c'était le retour des artistes qu'on avait parfois aux échanges, en backstage, en coulisses, entre deux plateaux, des thématiques qui revenaient. Donc ensuite, on a fait cette première année un test comme ça pour voir si effectivement il y avait un besoin et qu'on répondait à ce besoin-là. Et ce qu'on a fait très vite, c'est aussi de recueillir les retours, les témoignages des personnes qui participaient pour savoir si d'une part c'était utile, qu'est-ce qui les motivait à participer et qu'est-ce qu'elles auraient voulu aborder.
Nouvelle thématique.
Et en fait, on a suivi ce modèle-là. Et au fil de, et aussi nos partenariats avec toutes ces structures-là et ce retour du public, on a chaque année en fait on rajoute des choses en fonction de ça. Donc, et on se rend compte pour les ateliers et tout ça que c'est complet très rapidement. Après c'est des petites jauges, mais c'est très vite il y a des listes d'attente et on se dit ah oui, donc en fait il y a un réel besoin quoi. Et dans la mesure où on sera très nombreux et nombreuses à faire ça, à mettre en place ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir que nous, par exemple, on propose des actions gratuites, en fait. Dans la mesure où on pourra en faire de plus en plus, on va commencer déjà à voir les résultats plus rapidement. Donc on les construit de cette manière-là. Et après, il y a des thématiques aussi qui nous tiennent à cœur. Pour des multiples raisons, et que j'ai citées tout à l'heure. Encore une fois, les violences et le harcèlement sexuel, la santé mentale, la durabilité des carrières, en fait, c'est des sujets qu'on essaye d'aborder sur différents axes et angles chaque année.
Voilà. Thomas ?
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur l'âge des artistes, en fait, dans les projets que vous sélectionnez. Est-ce que c'est un critère que vous regardez ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que, dans la proportion aussi des artistes que vous programmez, est-ce que c'est plus des très jeunes artistes ou en fait, il y a de tout?
Il y a de tout. En fait, on est vraiment un festival intergénérationnel. On peut avoir... des projets. Alors, il y a les projets et l'âge des artistes. Après, je ne demande pas forcément l'âge à tous les artistes sur scène. Parfois, on voit des choses et ça ne correspond pas à l'âge des personnes. Mais en tout cas, on peut aussi programmer des projets qui ont une certaine existence, temps d'existence. Et des artistes qu'à simple vue sont très jeunes et des artistes un peu plus moins jeunes. Le festival est un festival vraiment intergénérationnel, donc il n'y a pas vraiment de critères là-dessus.
Et les artistes, les artistes programmés dans le festival s'engagent dans Les Femmes s'engagent en général. Il y a vraiment une passerelle là où de temps en temps, c'est quelque chose vraiment établi. Un peu systématique où on retrouve des gens qui ont été dans la programmation, qui partagent quelque chose, qui transmettent.
Alors c'est pas systématique, ouais. On essaye, on propose aux artistes.
Vous les incitez ?
Oui, voilà, ouais. On leur propose, on dit par exemple, est-ce que, j'en sais rien moi, est-ce que tu te sens à l'aise pour faire, un peu ce qu'on est en train de faire, de parler de ton parcours, des obstacles que tu rencontres. des accidents de travail. Les obstacles que tu rencontres, que tu as pu rencontrer dans ton parcours professionnel. Après, tu as aussi la logistique, bon, s'il y a la date, comment tu fais pour que l'artiste intervienne? Il faudrait que ce soit un peu avant, si c'est quelqu'un qui vient de loin, donc il faut payer encore un hôtel, donc c'est d'autres budgets. Donc c'est... Mais on essaye, effectivement, dans la mesure du possible, d'impliquer les artistes, quand elles le souhaitent, au dispositif Les Femmes S'Engagent.
Alors, bonsoir, Adriana. Merci beaucoup pour le partage. Moi, je suis... vous avez évoqué tout à l'heure un sujet assez intéressant, qui est le sujet de la jam pour les artistes émergents. Et moi, je suis organisatrice et créatrice d'une jam hebdomadaire dans le centre de Paris, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle la jam de Maison Etoa. Et c'est vrai qu'il y a une très belle communauté d'artistes émergents, donc qui sont en développement, qui travaillent sur leurs projets, qui n'ont pas forcément cette visibilité, ni une grosse expérience au sein de l'industrie musicale. Et mon objectif principal sur le moyen terme, c'est de faire en sorte que ces artistes émergents puissent rencontrer, en fait, pendant la jam, en tout cas que ça devienne un lieu de réseautage, un espace de réseautage un peu live lié à l'industrie musicale. Et donc j'ai été frappée par le fait que vous parliez de ça, parce que c'est vrai qu'en général, les personnes qui sont issues de l'industrie musicale sont peu dans les lieux underground comme ça, où effectivement les artistes ne sont pas encore tout à fait établis. Et donc ma question, c'était de savoir si vous aviez un conseil pour justement attirer les personnes comme vous dans les lieux comme le mien. Voilà, je ne sais pas. Ce serait très utile en tout cas.
Alors je ne sais pas si j'ai des conseils.
Et je vous invite évidemment chaleureusement à venir. Je vous donnerai les infos juste après.
Ça marche. Un conseil, alors déjà, pour faut dire la vérité, hein. Pour faire bouger les professionnels dans des, même en dehors de jam et à d'autres endroits et à d'autres moments, c'est très compliqué. Pour c'est une même histoire de temps et plein de choses, responsabilités, etc.
Tu es là ce soir.
Je suis là ce soir, mais c'est la vérité.
On n'a pas été chercher de force.
Non, pas du tout. Je suis venue avec plaisir.
C'est pas si compliqué.
Non, c'est pas si compliqué, mais on peut. Enfin, il va falloir insister, etc. Trouver le bon créneau, que ce soit pas un week-end, que ce soit pas un vendredi soir. Enfin, donc je pense que c'est assez complexe. Alors, par contre, si ça va être organisé l'énième tremplin, mais ça peut être aussi intéressant peut-être de penser à un modèle un peu différent, c'est-à-dire qu'à la fin de la jam, peut-être avoir, parce qu'on avait fait à Ivry, avoir une scène ouverte avec, pour le coup, je parle d'un modèle qu'on a testé à Ivry-sur-Seine en novembre avec Baobo Prod, qui du coup, elles font des jams à Montreuil, à l'Harmonie, une fois par mois, il me semble, c'était de faire de la scène ouverte à la fin de la jam avec des inscriptions et pour le coup des projets, enfin avec des morceaux qu'on enregistrait, qui sont déjà construits, qui sont déjà faits, avec des formations qui existent déjà.
Mais justement, c'est ce qu'on met en place là ce mois-ci. On présente, en fait, on choisit des habitués de la jam qui ont des projets à vouloir présenter, on leur laisse une vingtaine de minutes justement pour qu'ils puissent présenter leur projet avec leur équipe.
Et je pense que ça peut être aussi intéressant de peut-être prendre contact avec les autres organisatrices de jam, en fait, qu'il y a à Paris, en Ile-de-France même. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas de réponse magique pour comment faire venir les pros dans des jams.
C'est pas facile, en fait.
C'est vraiment, ouais.
Mais c'est vrai que souvent les pros viennent quand il y a déjà eu un début de sélection, quoi. Mmh. Parce que malheureusement, ils peuvent pas venir, hein, je sais pas si c'est toutes les semaines, tous les mois.
Tous les mercredis soirs à Étienne Marcel, voilà. À
donc
la
forcément, c'est comme nous, on fait une scène ouverte toutes les semaines. Il y a plein de gens qui passent et tout. Un pro, il ne peut pas venir toutes les semaines voir tout le monde comme ça, et tout le monde vient essayer un truc. Donc il y a, c'est ça que dans les tremplins, il y a déjà un repérage qui est fait, où on parle souvent de avec la langue, le festival de fait des chansons, où là c'est des prods qui viennent présenter des artistes. Enfin voilà, il y a déjà. Donc là, il y a tous les pros parce qu'ils savent qu'il y a déjà tout un travail qui est fait avant de repérage, quoi, de pré-repérage, quoi, avant.
Ah ouais.
Parce que...
Tiens bon.
Il y a beaucoup d'artistes, quand même.
Merci beaucoup.
Et bravo.
Alors, peut-être... là, je vais partir dans les grandes questions. Un peu. non, mais comment... toi, tu as quelle vision un peu du métier, des musiques actuelles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu es optimiste? Tu penses que ça... Il y a plein de places pour des nouvelles choses, des nouveaux projets. Ou au contraire, tout se ressemble. Ou comment est-ce que... voilà. Qu'est-ce que tu peux dire du métier un petit peu aujourd'hui et de l'évolution de la musique, quoi, aujourd'hui?
Alors, c'est ma position, elle est... je me trouve à un endroit de ma vie où je ne pense pas pouvoir adresser un portrait de l'évolution des musiques actuelles en France. En tout cas, ce que je constate, c'est que, voilà, moi je suis vénézuélienne, je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler dans la musique il y a 4-5 ans, et en fait, j'ai trouvé ma place à un moment donné, donc je pense que ça m'a... Et j'ai aussi été bien accompagnée dans cette lancée. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc qui se passe en France, qui est cette exception française par rapport, avec toutes les critiques qu'on peut faire, à la manière dont la culture est financée, qui est différente d'autres pays dans lesquels je pense qu'effectivement, si on est uniquement focus sur l'argent, comment l'obtenir pour financer ce qu'on fait, on délaisse des côtés, donc cette possibilité d'ouvrir la place à plein de visages, parcours différents. Non pas qu'en France, il n'y ait pas de problème d'argent pour financer les projets, mais disons que voilà, le statut d'intermittent, les financements pour les salles, voilà, il y a quand même, en ayant moi ces deux cultures, je peux aussi me permettre de faire cette comparaison-là. Donc moi, mon analyse, mon évolution, je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut se faire une place grâce à cette exception-là culturelle française. C'est peut-être un peu naïf, mais...
Une question par là, non? J'ai cru voir. Ah.
Bonsoir. Moi, j'ai une question sur vos débuts. Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé avec l'accompagnement de musiciens, musiciennes de votre entourage, sans avoir forcément de contact dans le milieu. Et du coup, ma question, c'est comment vous êtes allé chercher ces contacts et les bons contacts? Comment vous avez procédé voilà.
Alors, j'ai un peu menti, oui et non, parce que la première artiste avec qui j'ai commencé à travailler, qui d'ailleurs a été programmée ici, c'est Elodie Milo.
Qu'on a accompagné un peu, ouais.
Voilà, qui a été accompagnée aussi par la manufacture. En fait, elle avait déjà, disons, repéré, elle avait déjà joué dans des lieux, avait un document dans lequel elle avait les contacts des programmateurs, programmatrices, directeurs, directrices, des lieux où elle s'était déjà produite. Et en fait, c'était pas mon réseau, mais en tout cas, j'avais déjà quelques contacts. À l'époque aussi, je pense que c'est toujours le cas, mais je ne suis pas sûre, peut-être que tu pourras me dire. Et on pouvait aussi chercher dans ce qui est aujourd'hui le CNM, on pouvait chercher par structure, quelles étaient les personnes, quand on ne le trouvait pas sur le site internet, quelles étaient les personnes, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
C'est l'officiel de la musique qui était en ligne.
Voilà, c'est ça.
Il y avait un annuaire avec... il existe encore l'annuaire
Oui.
Il existe encore.
Il existe encore l'annuaire. Donc du coup, voilà, je pouvais avoir les mails par là.
Sur le site du CNM.
Voilà. Et souvent, en fait, c'est sur les sites internet, en fait, des salles. Ou des lieux, ou des festivals. Sauf quand il y a le formulaire contact, ou voilà. Là, c'est bon courage. Mais du coup, ça s'est fait petit à petit. Et puis c'est vrai qu'après, j'accompagnais... cette artiste-là sur scène, donc j'allais avec elle, j'ai rencontré les salles, j'ai rencontré les équipes techniques, et donc voilà, c'est le réseau a commencé à se faire un peu comme ça.
Voilà. Bonsoir.
je reviens un peu sur la question d'avant. Tu disais qu'il pouvait y avoir des possibilités, enfin, qu'il y avait plein de choses en France, notamment qui nous permettaient de faire de la musique. Est-ce que, puisque le festival est itinérant, tu trouves que c'est possible de faire de la musique à Paris? Tu trouves que c'est pareil dans les autres villes? Tu trouves qu'il y a quelque chose qui se développe dans les petites villes aussi? Je ne sais pas si tu es en contact avec des scènes vraiment dans des petites villes ou des festivals de campagne, j'en sais rien. Parce que bon, moi j'ai ma famille qui est dans le sud et franchement je trouve que c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a une évolution, si tu vois que ça avance. Ou même comment on peut faire, nous, en tant qu'habitants de province. Est-ce qu'on peut aller vers les mairies, impulser des choses? Est-ce que, de qui ça vient et comment ça peut faire pour évoluer?
Alors, oui, on est en contact avec des salles dans d'autres villes, des villes petites, moyennes, des salles en ruralité aussi. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes problématiques. Paris, c'est quand même un cas très particulier. Même en Ile-de-France, il suffit de sortir et de s'éloigner un peu du centre de Paris, quoi, pour voir qu'il y a d'autres sujets qui sont très présents, notamment l'usage des studios, par exemple, de répétition, ne serait-ce qu'avant de pouvoir monter sur scène. Ça, c'est une donnée qui nous revient souvent, en fait, des salles, à savoir comment on fait pour qu'il y ait plus de nanas dans les studios. On fait tout de la com, on fait tout ce qu'on peut, et finalement, bah, il y a 12%, j'en sais rien. Il y a peut-être des efforts qui sont faits en termes de programmation et pour la parité des plateaux, aussi parce qu'il y a des contraintes financières qui font que, voilà, de plus en plus, il n'y a pas encore les conditionnalité
Il y a une très forte incitation, dans les dossiers
à respecter cette parité-là. Maintenant, ta question, elle est très pertinente sur comment faire à notre échelle individuelle. Et puis ça peut être effectivement monter quelque chose à petite échelle, au niveau local, en sachant qu'il y a potentiellement déjà des femmes qui ont des projets et qui essayent d'aller chercher les plus grandes villes autour pour pouvoir être programmées. Mais il y a des énormes disparités, par contre, territoriales par rapport à ça. Et nous, en tout cas, quand on essaye de construire des plateaux avec d'autres villes, on part toujours de l'expertise, en fait, des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent leur réalité pour proposer quelque chose qui soit vraiment adéquat à leur vie. Voilà.
Alors nous, depuis quelques années, on parle beaucoup et on réfléchit beaucoup à tout ça et on a plein de chiffres sur la place des femmes, surtout des femmes artistes. Et par contre, vendredi dernier, j'ai appris qu'il n'y avait que 20% de programmatrices. Est-ce que tu as un chiffre à peu près comme ça ou
C'est
bon,
le
hein?
chiffre, on est dans les... Ouais.
Alors, à la Manufacture ici, Chanson, avez... on a une programmatrice.
Yeah. Donc,
mais on a quand même du mal à avoir plus d'artistes féminines sur scène. On a terminé. Et ben, alors peut-être avant de le tout dernier mot, Tristan, quelle est donc cette prochaine rencontre professionnelle qui va venir? Tu as pensé?
Je vais essayer de ne pas me tromper et de bien le dire. Donc c'est le 30 avril et ça sera Julien Philippe qui est cofondateur d'Antipode Musique et de Zamora Label.
Et vous retrouverez à ma place Bertrand Mougin qui anime d'habitude ces rencontres. Et donc, franchement, Adriana, je te dis un grand merci.
Merci.
Et bravo.
Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0, proposées par la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre National de la Musique, en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Stéphane Riva et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.com. www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. À bientôt.